On est aujourd'hui le 25, mardi 25 Adar Rishon, ainsi que le 25 février. On est arrivé au 23e psaume. Aujourd'hui, cours de psaume, un psaume très connu, très important. Aujourd'hui, un cours court, on est mardi, mais d'un autre côté, un cours d'une actualité tellement, tellement brûlante, comme vous allez vous en apercevoir, qu'on se demande véritablement si ce n'est pas fait exprès. Or, vous savez que ce n'est pas fait exprès, puisque ce psaume-là, il tombe cette semaine, parce que c'est le rythme de nos cours. On est arrivé au 23e psaume, et quand je dis que c'est un sujet d'une actualité absolument brûlante, tel que le Malbim, qui a vécu il y a 200 ans, l'explique, parce que, comme vous le savez, entre autres, le débat ici en Israël sur l'armée ou pas l'armée pour certains fait rage. Et on va voir que le Malbim explique ce psaume-là d'une manière tellement, tellement actuelle que c'est à en couper le souffle. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va d'abord lire ce psaume que l'on connaît tous. Et le cours sera bien sûr pour... La Refoua Shelema de Chaim ben Rachel. En tous les cas, ce psaume-là, on le connaît parce que la plupart d'entre nous le récitons tous les Shabbats avant le repas du Shabbat. Mizmor le David, Hashem Roui lo Ersar. Je pense que la plupart d'entre nous ont ce minag, certains pendant le Kiddush, d'autres tout de suite au début quand on fait un motzi, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un psaume qu'on a l'habitude de lire au moins trois fois le Shabbat et une fois dans la Tfila aussi. Puisque dans la Tfila du vendredi soir, avant Baréchou, on dit aussi ce psaume, Mizmor le David, Hashem Roi lo Ersar. C'est l'un des psaumes qui est les plus connus dans notre tradition. C'est aussi un psaume d'une beauté rare et on va le lire tout de suite. Et après, on expliquera avec le Malbim. Mizmor le David, donc le chant de David. Hachem ro'i lo ersar. Hachem est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc David met ici en évidence, on ne va pas commenter énormément la traduction, mais David met en évidence ici que finalement celui qui accepte de se laisser diriger par Hachem ne manque jamais de rien. Alors bien sûr les commentaires tout de suite font remarquer une évidence, David n'est pas Alice au pays des merveilles. C'est évident qu'il ne va pas nous jouer la comédie que sous prétexte qu'on avance avec Hachem, on a l'abondance, on a la santé, on a le bonheur et tout va bien. Évidemment que non, parce que la réalité prouve le contraire. Ce que David veut dire, c'est que lo ersar, c'est-à-dire qu'un homme qui va avec Hachem ne ressent pas les manques. C'est-à-dire évidemment qu'il a des manques, mais il ne ressent pas ses manques. Pourquoi ? Parce qu'il a une telle confiance en Hachem que finalement, il sait que ce qu'il traverse, ce qu'il vit, ce qu'il reçoit ou ne reçoit pas, c'est véritablement pour son bien. Parce qu'il a complètement intégré le fait qu'on n'est pas sur Terre pour s'amuser. La vie terrestre n'est pas un film américain, c'est pas une heure et demie qui se termine bien, mais c'est un long parcours de combattant avec beaucoup de blessures, beaucoup de mauvais coups. Mais c'est comme ça, et celui qui le sait et qui s'accroche de toutes ses forces à Hachem, même si vu de l'extérieur, traverse aussi de nombreuses choses que traversent même ceux qui ne sont pas avec Hachem, mais la différence fondamentale, c'est comment lui le ressent, comment lui le vit. Comme je vous ai souvent expliqué, cette critique complètement stupide, et qui revient constamment, mais pourquoi ce juste-là, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé s'il est tellement collé à Hachem. La réponse la plus évidente, c'est de dire, tu lui as demandé à lui, à ce juste-là, comment il vit ce qui lui arrive. Le problème, c'est que toi, tu projettes ta propre compréhension des choses sur lui, et tu te dis, si moi, il m'arrivait ce qui lui arrive, je serais dans un tel état de colère, de malheur, de tristesse, que tu t'imagines que lui aussi le vit comme ça. Demande-lui à lui comment qu'il le vit. Et tu t'apercevras que lui vit les choses d'une manière très différente. Je peux même affirmer sans la moindre ombre de doute qu'un juste authentique vit ses épreuves d'une manière beaucoup plus heureuse encore que l'homme sans Dieu vit son bonheur entre parenthèses. Ça veut dire qu'un juste authentique vit beaucoup plus dans la joie, même dans les moments d'épreuve, qu'un homme sans Dieu, même lui, dans ses moments, entre parenthèses, de bonheur. Donc c'est ce que dit Rashi, c'est ce que dit, C'est ce que dit donc David, Hachem Roi Lo Ersaf. Pourquoi toujours David Rashi? Mais parce que Rashi est un descendant direct de David. C'est peut-être pour ça que ça vient dans ma bouche. Donc, Hachem Roi Lo Ersaf. Celui qui avance avec Hachem, qui accepte de le prendre comme berger, ne manque de rien. Binot Deshe Yarbitseni. Parce que Hachem m'amène toujours sur des pâturages abondants. Alme menuchot yenaaleni, dans des endroits où il ne manque pas d'eau. Encore une fois, c'est comment le juste le ressent. C'est pas une vérité objective. C'est une réalité subjective. Mais ce qu'il pense, c'est comment David, c'est d'autant plus fort que David, comme on le sait toute sa vie, a manqué d'énormément de choses. Donc c'est clair qu'il ne parle pas de la forme, mais du fond. Nafshi yeshovev yanchini bemagal etzedek lema'an shemo. Et mon âme, ça veut dire, je traduirai en français, mon état d'être, se trouve toujours au repos. Bemagal etzedek, parce que partout où je vais, je ressens ta justice. Lema'an shemo, parce que je sais que tout ce que tu me fais, tout ce qui m'arrive dans ma vie, lema'an shemo, tout ça, c'est pour la grandeur de ton nom. Alors, jusque-là, donc, trois versets qui montrent comment David traverse l'existence, ou une partie de son existence. Maintenant, tout d'un coup, tout change. On arrive au psaume 4. Jusqu'à présent, David n'a évoqué que des bonnes choses. Tu es mon berger, tu m'amènes dans de bons pâturages, à un endroit où il y a de l'eau abondante. Je suis constamment dans un état d'âme extrêmement reposé, tranquille, et je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de ton nom. Hein. Et maintenant, tout d'un coup, verset d'Alet 4. Gam ki eler beget salmavet. Même si je dois marcher à l'ombre de la mort, lo irara, je n'aurai pas peur. Tout d'un coup, la situation change. C'est pas qu'il se plaint. Au contraire, il continue à dire qu'il place sa confiance en Hachem. Mais tout d'un coup, il évoque la mort. Il évoque le fait de ne pas avoir peur. Et l'atmosphère dans les premiers versets est une atmosphère de bonheur. Il est dans des endroits où il y a des pâturages. On le voit presque, encore une fois, Alice au Pays des Merveilles, on le voit presque dans le Gan Eden. On n'a pas une image négative dans les premiers versets. J'insiste que vous allez comprendre après comment le Malbim explique. Et tout d'un coup, l'image s'assombrit. Je ne dis pas que lui s'assombrit, mais l'image s'assombrit. Tout d'un coup, on le retrouve Beget Salmavet, à l'ombre de la mort, affrontant tous les dangers, au point qu'il est obligé de dire « Mais j'ai pas peur, Hachem, j'ai pas peur, ne t'inquiète pas. » Mais s'il a besoin de dire « J'ai pas peur », c'est que forcément, il y a de quoi avoir peur. Loirara, qui a taïma dit « Je sais que tu es avec moi, donc c'est pour ça que j'ai pas peur. » Shiftecha, bien que je reçois des coups, et mot à mot, tes coups, bien que tu me frappes, tiens, avant il était sur des endroits d'abondance et de délectation, maintenant tout d'un coup il reçoit des coups. Shiftecha, même quand tu me frappes, ou Mishantecha, dans la mesure où tu me soutiens, ça veut dire c'est vrai que tu me frappes, mais tu me soutiens, tu me donnes la force de recevoir les coups. Emayenachamuni, c'est au moins ma consolation. Tiens, c'est déjà plus du bonheur, maintenant c'est de la consolation. Si c'est de la consolation, forcément qu'il y a de quoi pleurer. Donc on voit que le ton a complètement changé. Bien qu'il reste toujours un homme confiant, mais ce n'est pas tout à fait le même David qu'au début du psaume. Ta'aror lefanai shulchan neged sorerai. Tu as placé ma table devant tous mes ennemis. Qu'on peut comprendre de différentes manières, et j'explique d'une des manières possibles. Ça veut dire que même quand je mange, mes ennemis sont en face de moi en train de voir ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je n'ai jamais un temps de repos, j'ai jamais un temps de tranquillité. Je suis toujours à l'affût, toujours guetté, toujours épié, toujours en danger. Même à un moment où je pourrais souffler un petit peu, le temps de me nourrir, mes ennemis sont là et ils me guettent. Dishanta bashem en roshi kosi revaya. Mais malgré le fait que je mange en face de mes ennemis, tu as versé sur ma tête l'huile, ça veut dire que tu m'as oint en tant que roi, kosi revaya, et mon verre est rempli jusqu'au bord. On peut comprendre de deux manières, ça veut dire que je ne manque de rien, On peut comprendre aussi, comme expliquent certains commentaires, « Mon verre est rempli de mes larmes ». C'est un midrash qui dit ça, que David souffrait tellement que des fois il n'arrivait pas à retenir ses larmes, et il pleurait, remplissait son verre de larmes, et à Hatsot, quand il se levait à minuit, il buvait ses larmes. Comme ça, il y a un midrash que c'est à prendre à la lettre ou c'est une image, mais peu importe, l'idée reste la même. Il buvait ses larmes comme pour dire à Hachem, regarde ce qu'ils me font. Ah, cependant, Tov va chesser à dire des founis. Je sais malgré tout que le bien et ta bonté ne cessent de me poursuivre. Ça veut dire que même quand je suis obligé de fuir mes ennemis, c'est déjà, ça, c'est de pire en pire. Même quand je suis obligé de fuir mes ennemis, je sais que toi tu me poursuis pour me faire du bien. Et effectivement, David n'a jamais été abandonné. Kol yemei chayai, et je sais que jusqu'au dernier jour de ma vie tu seras à mes côtés. Veshafti bevet Hashem leorech yamim, car tout mon souhait est de pouvoir être assis dans ta maison à toi Hashem pour l'éternité. Un psaume qu'on peut comprendre au premier niveau, on a compris que finalement ce que David dit, c'est qu'il faut placer sa confiance en Hachem, et même quand tout va mal, il ne faut pas se désespérer. Et d'une certaine manière, toute personne authentique, honnête, qui se donne la peine d'expérimenter dans sa vie ce psaume, sait que c'est pas stam des mots, c'est vrai, c'est réel. Et il n'y a aucun doute que ce psaume est 100% authentique pour ceux qui se donnent la peine de le vivre dans les moments difficiles. Quoi qu'il en soit, on va voir que le Malbim, lui, va expliquer ce psaume d'une manière extraordinaire. Et on rentre tout de suite dans le Malbim. On est donc Kaf Gimel. Et on va consacrer tout le cours à la première explication du Malbim sur le tout début de ce psaume, qui d'une certaine manière est l'explication de tout le psaume. Après, il ne fait qu'expliquer plus dans les détails, mais le premier commentaire du Malbim est vraiment... Et la compréhension profonde de ce psaume-là, juste un instant. Il dit, « Be mizmor azé, dans ce mizmor, dans ce chant, charat et korotav, David se remémore sa vie, son histoire. » Donc, apparemment, c'est un psaume qu'il a fait quand il était relativement âgé. Et donc il se rappelle sa vie. Mais et eyoto roé, il se rappelle le jour où lui-même était encore un berger. Quand il avait 13, 14, 15 ans, il a été berger jusqu'à l'âge de 20 ans plus ou moins. Il se rappelle donc son adolescence quand il était berger. Roetson, Bamidbar, dans le désert. Ad she'ala le melucha, jusqu'au moment où il est devenu roi. Donc, il nous met tout de suite dans l'ambiance de ce psaume. Sache, dit le Malbim, que ce psaume fait allusion aux deux grandes étapes de la vie du roi David, quand il était jeune, adolescent, berger, et quand après, il est devenu roi, et surtout, comme on va le voir, la transition entre son statut de berger et son statut de roi. Trila, au début, Yashkif al Reshit Yemei Chayav, il se rappelle donc de son adolescence, et itbodet imatson, à l'époque où il était seul avec ses moutons, veidame et atzmo katson roe al neot deshe et hachem. Et lui-même dit qu'en vérité, quand lui-même était le berger de ses moutons, il se sentait lui-même comme le mouton d'Hachem. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, il était conscient que roe amashgar alav be'ein chemla, combien Hachem était bon avec lui. Et donc, Ashanimaele, ces années-là, dit David, Emayu etzlo mivchar yemei chayav, sont considérées comme les meilleures années de sa vie, et c'est la raison pour laquelle les trois premiers versets sont des versets qui parlent véritablement du paradis terrestre. Je suis sur des bons pâturages partout où je vais, il y a de l'eau. Ça veut dire effectivement, il a vécu dans sa jeunesse, lorsqu'il était berger, les meilleurs moments de sa vie. Pourquoi? Parce que Be'od itbodet imkono, parce qu'il avait tout le loisir, tout le temps à ce moment-là de pouvoir se consacrer uniquement à Hachem. N'oublions pas, vous le savez très bien, c'est la raison pour laquelle Avel est devenu berger. Pourquoi? Parce que Avel était un homme spirituel. et les spirituels dans l'histoire biblique choisissaient tous le métier de berger. Pourquoi ? Parce que c'était le métier qui permettait le plus de itbodedut, comme il le dit, les itboded imkono. D'une certaine manière, c'était un chassid Breslev. Et donc, il avait tout le loisir, une fois qu'il a trouvé le pâturage, il paraissait pendant des heures et des heures à la belle étoile, dans des paysages merveilleux qui soulèvent l'âme et l'exaltation. À ce moment-là, qu'est-ce que faisait David ? David, on le sait, c'était un homme extrêmement spirituel. Et donc, il priait, il étudiait, il se retrouvait seul avec Hachem, loin de la cité, loin de toutes les tentations de ce monde. Choix qu'avait fait Caïn. Caïn était le matérialiste qui avait choisi la matière. Et Abel était le spirituel qui avait choisi la montagne. C'est le choix que vont faire après aussi, n'oublions pas, les pères d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce que va dire Yaakov à ses enfants en arrivant en Égypte, à Yosef, à ses frères, surtout dites-leur que vous êtes des bergers. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens ont les bergers en dégoût. Pourquoi ? Des parasites. En quoi ils sont productifs, ces gens-là ? Nous, c'est les machines, les industries, l'informatique. Nous, on fait avancer le monde, mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Rien du tout. Et donc, c'est pour ça que comme ils ne voulaient pas, Yosef, que ses frères soient justement investis dans l'industrie et l'économie égyptienne, il leur a dit, dites que vous êtes des bergers. C'est Rachid qui explique ça, c'est pas moi. Dites que vous êtes des bergers. Mais le chidouche, c'est qu'il y avait une idéologie anti-berger en Égypte. Kitorevat mitzrim, rokol roetzon. Car les Égyptiens considèrent les bergers comme une abomination. Pourquoi ? Parce qu'ils sont anti-civilisation. Des religieux, des spirituels, des parasites. Voilà. Et donc, Yosef, connaissant bien la mentalité de l'Égypte, il a dit à ses frères ce qu'il fallait dire pour se faire réformer ou je ne sais quoi. Et donc, pour David, dit le Malbim, cette période où il était seul avec Hachem, loin de la société, c'était les meilleures années de sa vie. Be'od yezamer lefanav, il pouvait chanter devant le maître du monde. Aligayon bechinor, ne'im zmirot Israël. C'est à ce moment-là qu'il a commencé, dit le Malbim, à composer les psaumes. Be'od lo natal alaf keter amlucha. Tout ça, c'était avant que ne lui soit imposé. Vous allez voir, le pirouge du Malbim est bouleversant. Avant que ne lui soit imposée la couronne royale, Léa Frido, qui l'a nécessairement arrachée, Midat Vekutim Hashem, de sa vie de solitaire avec Dieu. Ça veut dire David, le Malbim est en train de nous révéler quelque chose dont j'ai souvent, souvent fait allusion. Rappelez-vous que le grand, grand, grand fondement de la morale juive est, la morale juive, j'ai pas le mot, car c'est un mot pas de chez nous, le mot moral. Mais l'un des fondements de l'identité juive, merci Hachem d'avoir trouvé le bon mot, l'un des fondements de l'identité juive, c'est que un homme doit comprendre qu'il est sur terre pour sortir de sa nature et pour accepter finalement d'être, pour réussir d'être, ce que sa nature, s'il s'était laissé aller à sa nature, ce que sa nature ne l'aurait pas poussé à faire. Comme dit entre autres le Tanya, mais toute la Torah l'explique, que être Oved Hashem, servir Hashem, c'est sortir au-delà des limites de sa nature. Rappelez-vous ce que le Ari HaKadosh révèle, c'est que la véritable nature d'Abraham était quoi ? Était Din. Dans sa nature profonde, Abraham était un homme dur. Et tout son travail, toute sa mission était de quoi ? De faire naître, de devenir la matrice de la bonté. Mais dans son caractère profond, c'était un dur, c'était un guerrier, c'était un combattant. Comment qu'il a commencé sa vie ? À être seul contre le monde entier. Il a été le seul, le premier, l'unique à affronter Nimrod. Il a été jeté dans la fournaise. Il était un contre tous. C'était pas du tout un tendre. C'était un véritable guerrier. Mais pour servir Hachem, Hachem lui a dit, toi, je veux que tu dévoiles dans le monde la bonté, la charité, l'amour d'autrui. Mais ce n'était pas sa vraie nature. Et pourquoi je lui demande de le servir contrairement à sa nature ? Parce que c'est ça le Emet. Pour prouver que tu cherches la vérité, tu dois être capable de faire quelque chose qui est contre ta nature. Le Ari HaKadosh dit que la véritable nature de Yitzhak, ce n'était pas la rigueur. C'était un grand tendre. La preuve, il fondait devant Esav, c'était un homme extrêmement tendre, mais sa avoda, son service a été la rigueur. D'où on sait, mes amis, quelle est la véritable nature d'un homme? D'où on sait que la véritable nature d'Abraham, c'était un dur? D'où on sait?
Avec les fils de Lot, je crois.
D'où on sait? Mieux que ça. Mieux que ça. Non, ne cherchez pas dans les événements qui lui sont propres. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas chez lui. Montre-moi ta femme et je te dirai qui tu es. La femme est toujours le miroir de l'intériorité réelle de l'homme. Et vice-versa, d'ailleurs. Sarah, c'est une tendre ou une dure? Ouh là là. La seule fois qu'elle ouvre la bouche dans la Torah, c'est pour engueuler son mari.
Très bien.
C'est pas une facile, Sarah. Elle porte bien son nom. Sarah, dirigeante. Et dites-moi, la vérité, la femme de Yitzhak, c'était une tendre ou une dure? Une grande tendre. On lui demande un verre d'eau. On lui demande un verre d'eau et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit 10 chameaux. C'est pas du chesed, ça? Il lui donne, agmieni nat na meat maïm, donne-moi juste une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau? Mais je vais donner à boire à tes 10 chameaux. Vous savez combien boit un chameau?
40 litres.
100 litres. 10 chameaux, 1000 litres. Et chaque chameau avait avec lui un homme. Et pendant que j'étais en train de jouer au chèche-bêche, elle a nourri 10 chameaux. Mais on lui a demandé une gorgée d'eau. Le chesed personnifié, parce que c'est la vraie nature de Yitzhak. Et donc, montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Si on a la chance d'avoir une femme authentique, ça veut dire qui ne s'est pas elle-même falsifiée. Parce que dans ce monde où tout est falsifié, on ne sait plus qui est quoi. Mais normalement, la femme d'un homme, si c'est son vrai zivoug, révèle la nature de l'homme profonde. Mais la nature profonde de l'homme, ce n'est pas forcément la nature avec laquelle il doit vivre dans ce monde. Puisqu'au contraire, je suis en train d'expliquer qu'un homme doit vivre dans ce monde avec une double nature, sa vraie nature et sa nature qui est sa mission. Donc ici, le Malbim révèle que la vraie nature d'Abraham... Maintenant, je vous posais la question, évidemment. C'est un fait qu'on a déjà rapporté des milliers de fois dans nos cours sur David. David est à la fois un homme extrêmement tendre, un homme extrêmement spirituel. Spirituel, c'est évident. Tendre dans sa relation avec ses ennemis, Shaoul, etc. Et en même temps, un homme extrêmement dur, un vrai guerrier, un vrai combattant. À 17 ans, il dégomme Goliath. Et on sait que ce n'était pas du tout un tendre avec ses ennemis. Quand son beau-père lui dit « Tu veux épouser ma fille, ramène-moi 100 prépuces des Philistins », il part, il en ramène 200. Les 100, c'est pour elle, les 200, c'est en cadeau. Je veux dire, ce n'est pas un tendre, David. Si on se pose la question « C'est quoi la vraie nature de David ?» Le Malbim dit, c'est ce que j'avais dans ce psaume, « La vraie nature de David, c'est un spirituel, un grand tendre. Guerrier, dur, cruel parfois, c'est sa contre-nature, celle qu'il a accepté de faire naître en lui, malgré lui, comme on va le voir, parce qu'il a accepté le choix qu'Hachem avait fait pour lui, malgré lui, de devenir roi. Mais ça n'a jamais été sa volonté profonde. Ça a été sa contre-nature, c'est-à-dire sa mission sur terre. Regardez ce qu'il dit. Il dit, donc, jusqu'au jour, donc ce psaume parle au début de sa jeunesse heureuse en tant qu'homme spirituel, puis après je répète, Be'od lo natal alav, au moment où il lui avait pas encore imposé Keter Amloucha d'être roi, Le'afrido min advekut im Hashem, ce qui l'a arraché à sa connexion, on pourrait dire très forte et très spirituelle avec Hachem. Shechen, et la preuve, dit-il, Matsanu, on voit, Shegam Achare Malko, que même après qu'il est devenu roi, Kara et Tatsmo Tamid Beshem Ani Vedal, on voit de très nombreux psaumes où il dit devant Hachem, je suis Ani, je suis Dal, je suis un pauvre type, je ne suis pas grand-chose, etc. Alors, beaucoup de commentaires, et c'est ça la puissance incroyable du Malbim, c'est à couper le souffle, la puissance de son commentaire. Beaucoup de commentaires plus classiques disent pourquoi quand David était roi et déjà un homme redouté par toute la région et plus encore, pourquoi ils continuent à se dire « je suis rien, je suis ici », etc. Alors les commentaires disent « parce que de là tu vois que c'était un homme humble, qui ne se prenait pas au sérieux ». Je ne dis pas que ce n'est pas juste comme commentaire, mais c'est tellement loin du vrai commentaire, celui que le Malbim dit. Le Malbim dit quand David, dans tous ses psaumes, disait « Anori ani vedal », ce qu'il voulait dire à Hachem, sa chose suivante, « tu sais bien que ma nature profonde, c'est d'être un homme simple, un homme sur le côté, qu'on ne connaît pas, tranquille, moi je n'ai rien demandé, c'est toi qui m'as imposé la royauté, j'en ai aucune satisfaction ». C'est pas du tout que David disait, malgré sa grandeur, mais moi je me prends pas au sérieux. Non, ce qu'il voulait dire à Hachem, c'est sache que tout ce que tu me donnes, toute cette grandeur, toute cette puissance, c'est pas du tout mon truc, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Moi j'étais content quand j'étais un berger méconnu, que personne ne regardait, que... Ça, c'est mon kiff, pourquoi? Parce qu'au moins j'étais avec toi, Hachem. Maintenant, je suis occupé à tellement d'autres choses, c'est pas moi. La grandeur de David, et là vous allez commencer à comprendre pourquoi il est la racine du Mashiach. Parce que David est en train d'enseigner aux hommes que tu n'es pas là sur terre pour faire ce qui te fait plaisir. Même si ce qui te fait plaisir, c'est d'être avec le maître du monde. Tu es sur terre pour faire ce que le maître du monde te demande. Et s'il te demande de rentrer dans la réalité, de t'investir dans la nation, même si tu sens qu'on t'arrache à ton étude, à ta prière et à ton Dieu... Si le maître du monde te le demande, c'est ce qu'il faut faire. Tu diras, non mais attends, il faut que j'étudie, il faut que je prie, il faut que je sois avec le maître du monde. Qu'est-ce que je vais rentrer dans la nation? Vous allez voir, il va utiliser le mot rentrer dans la nation. Il y a un commentaire qui a 200 ans. Qu'est-ce que c'est actuel? David nous apprend que même un homme spirituel qui attend chaque moment pour se retrouver avec Hachem, il y a des fois où il doit accepter de fermer son livre et de redescendre et s'investir dans la nation. Regardez ce qu'il dit. Kizman aze aya azman ameushar etzlo. Le seul moment de sa vie où David a connu le bonheur, dans le sens français du terme, c'est quand il était loin des soucis, de la guerre, de l'armée, de l'économie, de la nation, du travail, qu'il était seul avec un livre et seul avec son Dieu. Ça, c'était le bonheur de David, parce que David était un spirituel, c'était pas un guerrier. Ou Ba'asher et Aratson Hachem. Mais David s'est dit, si toi, Hachem, ta volonté, Le'otio Mechaye Itbodedu, tu veux m'arracher à ma connexion unique que j'ai avec toi. Lir'otson Imo, quand j'étais berger et que j'étais en vérité pas avec mes moutons, j'étais avec toi. Tu le veux, j'accepte. Parce que c'est pas moi qui décide ce que je veux, c'est toi qui décides ce que tu veux, toi. Et à ce moment-là, si vev, si vous vim, qu'est-ce qu'a fait Hachem quand il a voulu l'arracher, finalement, à sa yeshiva? Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Si vev, si vous vim, Hachem a organisé les événements, chez Ilakar le Bet Shaoul, qu'il soit d'abord pris pour aller dans la maison de Shaoul, Medagen Bekinov. Vous vous rappelez comment tout a commencé? Quand Shaoul était malade, et qu'un de ses conseillers lui a dit « Ah, je sais quelqu'un qui joue très bien de la musique, je suis sûr que si tu l'écoutes, ce qu'on appelle la thérapeutie, il y a une médecine musicale. » Musicothérapie. La musicothérapeutie, voilà, le Makor est dans la Torah, mamash. Et donc, on l'a amené pour guérir Shaoul. C'est comme ça qu'il a quitté pour la première fois sa yeshiva. « Vesham natan belibo leilachem im Goliath » Qu'est-ce qu'a fait Hachem après? Là, comment il explique? Après que David a commencé à s'habituer à la vie de la cité, donc automatiquement, dit le Mabim, tout d'un coup, il a commencé à apprendre, tiens, que la vie, c'est pas uniquement « Mon Dieu, je t'aime ». Il y a des dangers, il y a des ennemis, il y a des combats, il y a des morts, il y a des blessés. La vie, c'est pas uniquement ce qui a marqué dans Magmara, non. C'est très concret, très réel la vie. À ce moment-là, il a commencé à ressentir dans son cœur que quoi? Que tiens, lui aussi, il a envie de se battre avec, contre plutôt, contre Goliath. Le Malbim explique que tout ce qu'Hachem avait fait de rendre malade Shaoul, afin d'amener David jouer de la musique, c'était pour l'amener à prendre conscience que la vie, c'est aussi un combat. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Parce que Hachem connaissait David. si David aurait été venu le chercher directement à la yeshiva, lui dire « Hey, tu veux pas te battre contre Goliath ?» Qu'est-ce qu'il aurait répondu, David ? Il a dit « Mais moi, je me bats contre Goliath. Hein. Moi, je me bats, mais je me bats à ma manière. Eux, ils se battent en bas, moi, je me bats en haut. » Bon, Hachem aurait été tellement énervé qu'il aurait dit « Bon, on va pas causer avec un type pareil. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem ? Hachem est intelligent. Il a été « Messavev sivuvim », dit le Malbim. Il a amené d'une manière rusée à prendre tout petit à petit conscience que le monde existe et que ça ne se limite pas uniquement à une relation égoïste entre un homme et Dieu. Reste qui dit et regardez ce qu'il va dire, Chemat Shaoul. Après, c'est incroyable. En vérité, ce cours-là, c'est un cours sur le roi David. C'est même plus un cours sur les Télim. Et ça a été la raison, dit le Malbim. Pourquoi Hachem a retourné Shaoul contre lui? Pourquoi? Alors, on n'a jamais étudié ça. C'est un ridouche, d'ailleurs, ce cours-là. Il faut le faire rentrer dans le cours sur le roi David aussi. Pourquoi? Pour apprendre au roi David, au futur roi David, que la vie, ce n'est pas une utopie. C'est dure et cruelle l'existence. Parce que c'est ça le problème des spirituels. C'est qu'ils se sont construits un monde qui n'existe que dans...
Dans leur tête.
C'est ça le problème des spirituels. C'est qu'ils ne comprennent pas que ce monde est terriblement cruel et dur. Mais David, c'était un homme autant innocent que spirituel. En vivant seul sur une montagne, il avait fini par croire que tout le monde vit dans le bonheur qui était le sien. Hé, redescends sur terre, mon vieux, tu vas voir que la vie, c'est très dur. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui retourne Shaoul contre lui. David a pour la première fois l'expérience de quoi? Oh, mais c'est de la folie ce monde. Il s'habitue à être un homme de terrain. C'est quoi un homme de terrain? Il se retourne pour voir s'il y a quelqu'un qui va lui planter un couteau dans le dos. Parce que c'est ça, ce monde. Veiten lo et bito. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem, pour l'amener un petit peu plus à prendre des responsabilités? S'il lui avait dit, Hachem, est-ce que tu ne veux pas devenir chef des armées de Shaoul? Qu'est-ce qu'aurait répondu David? Oh, je suis très bien avec mes moutons. Mais le cœur a des raisons que la raison n'a pas. Comment il est malin, Hachem, lui dit, hey, tu préfères la fille de Shaoul ou tu préfères les moutons? Ah, la fille de Shaoul, ah, ce qu'elles sont jolies, les filles de
le monde.
Qu'est-ce qu'il est malin, Hachem? Il lui amène une fille pour pas qu'il retourne chez ses moutons. Oh, qu'est-ce qu'il est malin, Hachem? Mais Hachem, il connaît très bien la nature d'un ben yeshiva. Il sait très bien que tu peux pas l'amener comme ça par la force. Bien que Hachem sait qu'il faut l'amener, parce qu'il est hors de question que tu restes avec tes moutons. Mais Hachem va utiliser quantité de ruses pour que finalement il prenne la mitraillette et il se batte à la tête des armées d'Israël. C'est ce que va devenir David, le petit Bahour Yeshiva, qui va devenir le plus redoutable de tous les guerriers d'Israël. Et c'est ce que Hachem veut. Parce que ça, c'est le Emet, ça, c'est la vérité. Quand un Bahour Yeshiva tient une mitraillette, ça, c'est la chose la plus grande que le peuple juif puisse produire. C'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est la synthèse entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça, c'est le roi David. On continue. Et donc, Hachem lui amène la fille de Shaoul parce que David, dès qu'il a un moment, il pense à qui? À ses
moutons.
Et maintenant, il apporte la fille de Shaoul. Maintenant, regarde, je vais raconter une blague. Vous allez beaucoup rire, mais je vous jure que c'est vrai. David avait tellement la tête dans ses moutons que même sa femme, vous savez comment qu'il l'a appelée? Ma biche. Je vous jure que c'est pas de moi. Il l'a appelée Eglati. Ma biche. Ça veut dire que c'était une déformation. J'espère qu'elle ne connaissait pas son passé, parce que sinon elle a dit, attends, tu me prends pour qui? Il l'appelait Eglati. C'est la référence de David. Quand il aime quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Mon petit mouton. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud, ma Maseret Sanhedrin. Il l'appelait ma biche. Tellement il avait la tête dans ce temps qui avait été le meilleur moment de sa vie. On continue. Après, Hachem a fait monter la pression. Il a voulu lui faire prendre conscience que, allez, C'est fini la rigolade, mon vieux. Maintenant, ton beau-père, il va vouloir te tuer. Et toutes ces expériences, c'était pour une seule unique raison. Lo ze ayu sibot el atzlachato ad sheagia la malchut. Jamais on l'a vu ça. Tout ce qui est arrivé à David, c'était comment Hachem a fait, comment faire passer un nazir. Il va l'appeler nazir, pas de moi. Comment faire un nazir, ça veut dire un ascète spirituel. Comment le faire passer de là à la royauté. Voilà quel était tout le programme d'Hachem. Vekolze, écoutez bien ce qu'il dit. Je sais pas, c'est une véritable prophétie qui parle, hein, parce que je ne sais pas d'où il sait tout ça. C'est incroyable. Vekolze, et tout ça, pourquoi? Pourquoi pas carrément le prendre, lui dire, oh, tu vas être roi d'Israël. Non, pourquoi? Aya neged ratson David. Parce que David, dans sa nature profonde, n'était pas du tout préparé et ne voulait en aucun cas prendre des responsabilités terrestres. Pourquoi ? Parce que si tu avais interrogé David, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je préfère Itbodedout. Je préfère étudier. Je préfère prier. Je veux pas vivre dans ce monde. Et David, toute sa vie, s'est souvenu avec des languissements de cette jeunesse où il était avec Dieu. Atovim be'enav, qui étaient les seuls jours heureux de sa vie. Miketer amloucha, beaucoup plus que la couronne et la royauté. On n'avait jamais vu ça, je me répète, hein, c'est fabuleux ce cours. Enfin, c'est fabuleux ce malbim. Venid me baiser. Et comment David ressentait le fait d'être roi? Ma'as, ça le dégoûtait. Beshevet malchut, il se sentait contraint comme s'il avait un bâton sur la tête. Vayivchar lichyot chaye aprishut ve'anezirut, parce que David n'aimait qu'une seule chose, vivre séparé du monde comme un nazir.
Comme son fils Avshalom. Voilà.
Comme son fils Avshalom. Bien que lui, c'était une tricherie parce que lui, il voulait le pouvoir, mais il l'a fait dans le sens, non, moi, je ne suis pas intéressé par le pouvoir, moi, je suis un nazir. Il a copié son père pour qu'on ne le soupçonne pas de vouloir prendre la place de son père. Mais David était un vrai nazir. On s'arrête, c'est lui, on fait une pause pour reprendre notre souffle, parce que c'est trop fort, cette histoire-là. Parce qu'il a fallu attendre pratiquement 3 mois de cours sur le roi David pour avoir une telle révélation. Juste un instant, Olivier. Conclusion du Malbim. Voilà maintenant comment on lit le psaume. Les 3 premiers psaumes qui parlent d'un bonheur absolu dans le sens le plus concret du terme, c'est David quand il était berger, David quand il était Baruch Yeshiva, David quand il ne savait pas que dans ce monde il y a des horreurs. David lorsqu'il pensait que quoi? Que le monde c'est Dieu et lui est Dieu. Et que quand on lui disait, mais tu as vu dans les journaux ce qui se passe dans le monde? Quel journal? Bitul Torah. Pourquoi Bitul Torah? Mais c'est pas ce qui se passe dans le monde. Et on a tué des femmes et des enfants. Mais ils n'avaient qu'à étudier la Torah. Alors Hachem a dit, bon, celui-là, un peu de patience avec lui parce que... Et voilà comment qu'il l'a amené à prendre conscience de ce qu'il y a dans le monde. Mais David, toute sa vie, est resté un homme qui n'attendait qu'une seule chose. Quand je vais pouvoir enfin retourner dans la maison d'Hachem. Et je saute tout de suite à la fin du psaume. C'est comme ça que le Balatourim explique le dernier verset. Artov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai v'shavti bevet Hachem l'orech yamim. Le Malbim explique que David disait à Hachem, dis-moi, est-ce que tu me ramèneras un jour dans ta maison parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais habitué au fait d'être roi. Vous me poserez une question, mais alors, c'est quoi sa grandeur? Mais c'est justement, c'est ça sa grandeur. Vivre par devoir, ça c'est la grandeur d'un homme. Je le fais parce que je dois le faire. Voilà. Tout le débat politique aujourd'hui, parce que c'est un débat plus politique qu'idéologique, quoi qu'il en soit, mais tout le débat aujourd'hui en Israël, sans rentrer dans les détails, c'est ce problème-là fondamental. Ce n'est pas ici un problème idéologique. Parce que sur le plan de l'idéologie, le Malbim dit, il a le courage de dire que jusqu'au dernier jour de sa vie, David, sur le plan idéologique, ne s'est jamais fait, n'a jamais accepté cette situation où on l'oblige à être dans ce monde. Le grand chidouche du Malbim, c'est que le Malbim dit non, il y a des hommes qui effectivement, leur nature, c'est de vivre Beprichout ou Benezirout. Et c'est pour ça que là j'interviens. Et sur le plan idéologique, tous ceux qui disent mais on n'a pas besoin d'eux, sont des apicorsim. C'est pas de moi, Masechet Sanhedrin. Perek Chelek. Mahu apikoros, Mishomer. Mahanelan Rabbanan, Lahen Tanu, Lahen Shanu. Incroyable, un texte il y a 2000 ans. C'est quoi un apikoros? Celui qui dit, à quoi ils nous servent tous ces gens qui étudient? C'est pour eux qu'ils étudient, c'est pour eux qu'ils servent Dieu. À quoi j'ai un bénéfice de ça? Apikoros, dit le Talmud. Oui. Alors ils ont raison, ils n'ont pas raison. Voilà la réponse. L'idéologie qui dit... Il y a des hommes dont la nature, la raison d'être, c'est de servir Dieu, le dos tourné au monde. Cette idéologie n'est pas fausse. Elle existe. Au point que celui qui dit « j'en ai pas besoin de ces gens-là » a picoros. Mais David nous apprend, c'est toujours la vérité, la synthèse entre les deux. On ne te demande pas d'adhérer à l'idéologie qui te dit de t'engager dans ce monde. On ne te demande pas d'adhérer à l'idéologie qui dit que quoi, que être un soldat c'est aussi important que d'être un étudiant en yeshiva. On ne t'a pas demandé ça. Même David ne le pensait pas. On te dit c'est un devoir, Nekouda. Tu es obligé, Nekouda. Tu n'as pas envie mais c'est un devoir. Le devoir est au-dessus de l'idéologie. Et voilà ce que nous apprend le roi David. Le devoir. Je n'ai pas envie, ça ne correspond pas à mes idées, mais je le fais quand même. En vérité, dans ce conflit entre les deux clans, c'est que les deux ont tort. Parce que les dindis, sur le plan idéologique, et c'est de la pique en soude. Vous nous servez à quoi, vous? Comment vous nous servez à quoi? Bande d'ordures. Sans eux, où serait le peuple juif après 2000 ans? On avait vos temples pendant 2000 ans, on n'avait que la Torah, et on est toujours là. Mais d'un autre côté, ceux qui disent, c'est pas notre truc, nous notre combat c'est avec des livres, ceux-là aussi ont aussi tort que les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ici une question de qu'est-ce qui est le mieux, c'est une question de qu'est-ce qu'on a le devoir de faire. Tu ne peux pas vivre dans un pays, en profiter et ne pas remplir ton devoir, Nekouda. Et ce débat tel que le Malbim nous l'explique, il est refusé par les uns et par les autres. Parce que les uns se trompent en disant « on n'a pas besoin de ça ». Ce qui est une très grave erreur. Et les autres se trompent en disant, en faisant ça, on remplit notre devoir. Le vrai débat, il n'y a pas un homme dans ce pays qui l'a encore énoncé. Tout le monde se trompe. 5 millions de juifs qui n'ont pas encore été capables de mettre le doigt sur le vrai problème. Aujourd'hui, pour la première fois ici et grâce au Malbim. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sortira pas et qu'il n'y a pas de solution, car ne vous faites aucun doute, d'accord? Cette loi va tomber comme toutes les autres. Ils n'iront pas à l'armée. C'est signé, c'est sûr. Si je me trompe, j'arrêterai d'enseigner. Et pourquoi je le sais? Parce que ce n'est pas possible par ce chemin-là. Ce n'est pas ce chemin-là. Pourquoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un, d'accord, ton idéologie, elle est fausse, c'est la meilleure manière de le braquer pour qu'il va se renforcer encore plus. À quoi? En plus, quand ce que tu dis est faux. Parce que dire que l'idéologie de l'étude de la Torah toute la journée est fausse, est la pire des perversions qu'un juif est capable de dire dans sa vie. Ça, c'est une perversion totale. Et c'est pour ça que la manière dont ils veulent les amener à l'armée, étant complètement fausse au départ, elle est vouée à l'échec. Il y en a 10 qui vont faire la prison, et puis après, de toute façon, on se rendra compte. J'imagine qu'il y en a un petit qui va. À mon avis, il y en a un qui va se suicider.
Parce qu'il faut
et quand il y en a un qui va se suicider, alors à ce moment-là, on dira bon, etc., etc. C'est ce qui va se passer, de toute façon. À mon avis, il va y avoir un ou deux cas de mort, et ça sera fini. J'imagine, non, c'est prévu. Ben, par où, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir, tout le film est connu d'avance. Mais en vérité, quel est le problème? c'est que ce sont tous des imbéciles, d'un côté comme de l'autre. Personne n'a compris où est le vrai problème. On a besoin de vous, sans la Torah, il n'y a pas de peuple juif. Et vous avez raison que la force de l'étude de la Torah est aussi importante que n'importe quelle autre force. Mais le débat n'est pas là. C'est que maintenant, il y a un devoir. Et le devoir, qui a le droit de s'y soustraire? Qui a le droit de dire, moi je décide de rouler à gauche quand tout le monde roule à droite. Mais attends, moi je décide que je passe au rouge et je m'arrête au vert. Vous imaginez ce qui va se passer? Moi je décide que je paye pas mes impôts, mais je donne la tzedaka à la place. Mais attends, je comprends pas. Il y a une loi, il y a un devoir, c'est le même pour tout le monde. Pourquoi lui il va à l'armée et pas toi? Mais comme ceux qui veulent que les uns aient à l'armée, en vérité leur problème c'est qu'ils haïssent la Torah, ils ne se rendent même pas compte qu'en vérité ils utilisent les mauvais arguments pour dire quelque chose qui est juste, mais les arguments sont faux. Comprenez où je me situe? Vous avez compris où je me situe? En vérité, je dis la même chose qu'eux, mais je les accuse d'utiliser des arguments qui sont intolérables, inacceptables, et c'est pour ça que les autres ont raison de ne pas se laisser faire. Quand on viendra avec de bons arguments, c'est ce que nous explique le Malbim, jouer, faire comprendre la notion de devoir, débat que personne n'aborde ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme c'est un conflit idéologique et non, on pourrait dire, c'est pas un conflit de société, c'est un conflit idéologique, c'est pour ça qu'il y a un problème. Voilà ce qui se passe ici. On continue encore un petit peu, regardez ce qu'il dit. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il faut qu'on termine ce Malbim parce qu'il est absolument, absolument incroyable. Donc, David, lui, il voulait... Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem a fait ce que l'un et l'autre ne font pas. Hachem, il a voulu faire la même chose qu'eux veulent faire. Comment amener un Bachur Yeshiva à devenir chef des armées d'Israël? Mais seulement Hachem, lui, comme il aime la Torah, il va le faire avec sagesse. Comment qu'il va faire? Il va l'amener à prendre petit à petit conscience qu'il vit dans un monde dont il doit être responsable. Et Hachem, lui-même qui a donné la Torah au peuple juif, va dire à David, « Je suis désolé David, tu ne peux pas aider mon peuple uniquement en priant. C'est le maître du monde lui-même qui a donné la Torah à Israël qui dit à David, « Je suis désolé David, tu ne peux pas sauver mon peuple uniquement en priant. Je veux te voir aussi sur un cheval avec une épée. » Donc c'est Hachem qui le dit. Et ça, il le dit à tous ceux qui ne l'ont pas compris. La différence, c'est que pourquoi David est prêt à l'entendre? Parce que David sait que Hachem l'aime et qu'il n'a rien contre la Torah. Et il dit alors, dans ce cas-là, j'accepte de monter sur un cheval et de prendre une épée. Regardez ce qu'il dit. Alors maintenant, regardez, maintenant, il va donner une image, un exemple, on terminera et après les questions. Une image, un exemple pour illustrer l'histoire d'Hachem et de David. Et après, vous avez un quart d'heure de questions. Laissez-moi juste terminer. C'est l'histoire d'un... Je la résume. Vous la verrez vous-même. C'est l'histoire... Parce que je vais aller vite, je vais vous laisser poser les questions. Parce que je sens que vous êtes en train de bouillir. Et je n'ai pas le droit de vous laisser bouillir plus, parce que sinon ça va péter les plombs. Et donc, c'est l'histoire, dit le Malbim, d'un roi qui avait un fils, qui avait choisi de vivre comme un nazir, comme un prêtre. Mais son père savait que c'était véritablement un homme capable d'être roi après lui. Et il voulait l'amener lui et pas les autres enfants à la royauté. Parce que les autres enfants, ils n'avaient pas confiance en eux. Mais le nazir, lui, en plus il n'a pas problème d'argent, son père est roi. Donc il peut vraiment lui être Kolelman du matin au soir. Donc il a voulu l'amener lui à être futur roi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'abord lui parler. Son fils lui a dit, viens dans le Malbim, « Papa, écoute, tu connais ma nature, moi je t'as d'autres enfants. T'as d'autres enfants, le débat actuel. T'as d'autres enfants. » Et je vais dire, évidemment, c'est pas tout le monde qui étudie la Torah toute la journée. Moi j'étudie la Torah toute la journée, mais il y en a plein qui étudient pas toute la journée. Prends-les eux pour devenir roi, le débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit, bon, après tout, il aurait pu dire, bon, il a raison. Un qui étudie et 10 qui seront dans les affaires. Il dit non, les affaires de ce monde, je veux dire. Il dit non. C'est lui que je veux, et précisément pas les autres. Il a dit à ses serviteurs, vous savez quoi? Allez lui brûler sa petite cabane dans laquelle il est installé dans les montagnes pour s'occuper de ses moutons. Comme ça, il n'aurait pas où aller. Il sera bien obligé de se rapprocher de la ville. Ils ont été, lui ont brûlé sa petite maison. Elle a dit, bon, alors, il ne savait plus où aller, il faisait froid. Il est parti en ville, pas trop loin de ces montagnes, et puis il s'est loué un appartement. Son père a vu ça, il est parti chez les propriétaires, il dit, dites-leur que c'est une erreur, que la maison est vendue et que vous le mettez dehors. C'est votre fils, ne vous inquiétez pas, je vous dirai rien. C'est... Bon, ils le mettent dehors. Il réessaye ailleurs, même stratagème. Il se dit, j'ai une chambre dans le palais, je vais aller dans le palais, et puis je repartirai tous les matins de bonne heure dans mes champs. Et au fur et à mesure qu'il a été dans les palais, le père, il avait dit à ses conseillers de lui parler un petit peu, de parler à côté de lui, que son oreille entende ce qui se passe dans le royaume, jusqu'à ce que finalement, un jour, de lui-même, il dise à son père, « Papa, je ne savais pas qu'il y avait tellement de problèmes. Tout seul, tu arrives à t'occuper de tout. Tu ne voudrais pas que je t'aide un petit peu, vraiment, parce que tu es un bon père et je suis un bon enfant. Je voudrais t'aider. » Et c'est comme ça que finalement, il s'est retrouvé roi. Voilà comment Hachem a fait avec David. L'amener petit à petit à prendre conscience qu'on a besoin de lui, parce que justement, lui est capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. J'oserais presque dire, quitte à vous faire rugir de rage, que finalement, personne autant qu'un Ben Torah peut être un véritable bon soldat d'Israël, dans tous les sens du terme. Parce que celui qui l'a acquis à la Torah, il a une force que personne ne peut avoir. Comment ? Bien sûr, la force des tripes, la force de l'âme, la force du sacrifice, la force surtout de l'idéal, de savoir pourquoi il se bat. Et il le transmet à ses enfants, parce que ses enfants, tandis que les autres, ils ne transmettent rien. Au bout de deux générations, c'est fini. Et donc, au contraire, seulement quoi ? Il faut y aller doucement jusqu'à les amener. Alors maintenant, vous allez maintenant me sauter dessus. Je vous signale que je viens de dire exactement ce que vous pensez tous, sauf que la différence entre vous et moi, c'est que moi je ne suis pas un politicien, je suis un homme de Torah, et j'essaye quand une chose est vraie, de le dire avec les mots de la vérité, et pas les mots de la politique et les mots du débat de la rue, qui sont des mots que n'importe qui utilise n'importe comment, et mettre dans les questions.
D'abord, il faut que vous demandiez pardon. Moi, j'accepte pas cette dernière remarque. Je crois que les soldats qui sont d'Atim, ils sont pas mieux que moi. Ça, c'est d'abord, pour pas dire plus.
J'accepte.
Ensuite.
Après, les questions maintenant.
Maintenant, il y a Adam, c'est Abraham.
Pourquoi je réponds pas? Parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave.
Non. Vous avez dit...
J'ai parlé de la transmission dans les générations à venir.
Nous, on transmet rien du tout à nos enfants.
Bon, il
j'ai rien dit. Bon, maintenant il y a Abraham, David et Moshe, c'était trois personnages que les maîtres du monde allaient forcer de quitter leur...
C'est ce que je dis, c'est tout le Malbim. Voilà, c'est tout le Malbim, on a gagné, c'est tout le Malbim, c'est ce qu'il dit, il faut forcer.
Maintenant...
Mais il faut forcer, mais pas d'une manière à faire prendre conscience que tu forces, que tu es mauvais, tu es méchant, tu es...
Non, bon, on voit ça en bon terme.
Au contraire, lui faire comprendre, j'ai besoin de toi, c'est ton devoir. Et toi, tu pourras le faire mieux que n'importe qui d'autre.
Et vous dira que le devoir, c'est d'étudier la yeshiva toute la journée.
Mais c'est ça tout le débat.
Voilà.
C'est ça tout le débat.
Voilà, okay, c'est question.
Comment ça, poser des questions, s'il vous plaît, qui font avancer les choses. Parce que tout le monde sait, on le sait déjà. Oui,
question de Martine.
Oui.
Elle pose la question suivante. Elle dit, est-ce que la finesse que Hachem a utilisé vis-à-vis de David.
Enfin une question.
Est-ce qu'elle va être reportée de la même manière sur le Machiav?
Mais le problème est, c'est ce que j'explique, le problème est, c'est que dans ce conflit, les uns sentent qu'ils ne sont pas aimés par les autres. C'est ça le fond problème. Pourquoi David a accepté qu'on le contraigne à faire ce qu'il ne voulait pas faire? C'est parce qu'il n'avait pas de doute que Hachem l'aime et que Hachem veut son bien. Et Hachem est arrivé à lui faire comprendre que ce que je veux, que tu quittes la yeshiva pour rentrer à l'armée, c'est parce que je t'aime et c'est pour ton bien. C'est sûr que ça a été très dur, dit le Malbim. Hachem a dû lui-même utiliser quantité de stratagèmes pour l'arriver, même en passant par une fille d'ailleurs, en passant par l'amour. Donc Hachem sait comment ça fonctionne. Mais une chose était sûre, David n'avait pas de doute que c'est pour son bien. Or, le problème dans un conflit humain, pas forcément le nôtre aujourd'hui, c'est que quand chacun revendique sa valeur, mais en même temps dénigre celle de l'autre, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est des deux côtés, bien évidemment. Des deux côtés, il dénigre l'autre. Quand les uns et les autres sentent que je ne suis pas aimé, et qu'en vérité, je te soupçonne de vouloir me détruire, quel est le grand, grand slogan aujourd'hui du monde de la Torah ? Ils veulent détruire la Torah ! Mais pourquoi ils le disent ? Parce qu'il n'y a sans doute pas de fumée sans flamme. Et donc, si le vrai discours, si le vrai problème avait été posé, on vous aime, on vous respecte, on ne peut pas être sans vous, et sans Torah, il n'y a pas de peuple juif. Et c'est grâce à vous et non à nos temps qu'on est là aujourd'hui, après 2000 ans de persécution. Et un juif dit le contraire, il n'a pas de place parmi nous. Si on sentait de l'amour véritable, alors on pourrait commencer après à parler. Je ne dis pas que ça serait facile, puisque même pour Hachem, ça a été dur. Mais les conditions du départ sont qu'on ne remet pas en cause la compréhension de l'autre. Qu'est-ce que nous dit le Zohar et le Midrash aussi ? Pourquoi Caïn a tué Abel ? Parce que Abel le regardait avec dédain. Toi le travailleur, moi je suis spirituel. C'est la grande faute que font les uns qui attirent la haine des autres et vice-versa, c'est le chat qui se mord la queue. Parce que chacun, finalement, considère l'autre comme étant inutile. Ou bon, on a besoin de toi parce qu'il faut bien quelqu'un pour faire des ponts et faire des routes, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout.
Ça répond pas complètement à la question. Est-ce que ça, il s'y prendra de la même manière avec le Mashiach ? Est-ce que cette finesse...
Toute la Torah du Mashiach, c'est de faire comprendre que le monde a été créé sur le principe du corps et de l'âme. Toute la Torah du Mashiach, c'est de faire comprendre que les hommes souffrent depuis des millénaires du fait qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on a besoin des deux. Et que dès que l'un regarde de autre l'autre, c'est le début de toutes les guerres du monde. Le Zohar dit, Avel a été tué parce que c'est lui qui a commencé à mal regarder son frère. Le Zohar accuse le spirituel de sa propre mort. Dans le langage aujourd'hui, on le sait très bien qu'une grande partie de ceux qui étudient considèrent que c'est eux l'élite d'Israël. Et c'est ça ce qui amène, à juste titre, la réaction contraire de dire « on n'a pas besoin de vous, parasite ». Mais quoi qu'il en soit, dans le discours aujourd'hui, c'est un discours qui ne pourra aboutir à rien parce qu'il y a trop de tensions et trop de haine. En vérité, un homme de Torah, comme je le fais souvent, je le dis et je le redis, je considère que le Gadol Hador aujourd'hui, c'est en matière des ennuis inimaginables, mais je le dis, je prends la responsabilité de dire que le Gadol Hador aujourd'hui, y compris ceux des anciennes générations, je vais prendre mon rabbi, le rabbi de Lubavitch, n'est pas plus grand que Moreno, mort au combat pour défendre notre nation. Je le dis, je le redis. D'accord ? Aucun Gadol Hador n'est plus grand qu'un soldat qui tombe au combat. Très bien. Mais en même temps, je dis, d'accord ? Malheur à celui qui imagine que notre peuple puisse vivre sans Torah. Malheur à celui, parce que celui-là est notre vrai ennemi. Pire que les Syriens, les Iraniens, etc. L'idéologie parmi nous qui pense qu'on peut se passer en 2014 de Torah, c'était bon lorsqu'on était en exil ou etc. ou dans les, ceux-là sont plus dangereux pour nous que le sont nos pires ennemis. Parce que sans Torah, il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus besoin d'Hitler, il n'y a plus besoin de personne. Sans Torah, il n'y a plus de peuple juif. Donc les deux sont vrais. Maintenant, lorsqu'il y aura suffisamment de juifs dans notre peuple qui seront capables d'oser dire que le rabbi de Lubavitch, rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, Rashi, le Malbim, le Gaon de Vilna ne sont pas plus grands qu'un soldat qui tombe au combat, mais qu'en même temps que le juif qui ose dire qu'on peut se passer de Torah, celui-là n'a pas de place parmi nous, il ne mérite pas d'être juif, dire ces deux choses en même temps, et arriver à faire comprendre qu'on a besoin des deux, ça c'est la Torah de la délivrance. Cette Torah est fesse, nulle, elle n'existe pas dans notre peuple.
Rav, le combat en Israël, c'est pas contre la Torah, c'est ça. Vous définissez toujours contre la Torah. On n'est pas.
Vous vous le dites, parce que vous n'êtes pas comme ça, effectivement. Rav, mais vous n'êtes pas politique.
80, vous adorez dire 99,99, je dirais comme ça. 99,99% de ce peuple, il n'est pas contre la Torah.
100% d'accord.
Il est contre.
Mais, c'est pas même, mais la réponse est évidente. On ne parle pas du peuple. Le problème, c'est que ce n'est pas le peuple qui discute. Rav. C'est la politique. C'est, mais non, mais on est tout d'accord.
Mais on est contre la skouna.
Mais on est d'accord. Mais c'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est pas vous qui êtes à la Knesset. C'est ça le problème. Vous avez 100% raison et tort. Le problème est, c'est que vous avez 100% raison. C'est pour ça que si ce débat était laissé au peuple, on n'aurait pas de problème à mon avis. Le problème, c'est que c'est la politique et les politiciens qui, eux, gâchent tout. Parce que eux ont un problème idéologique. Et ça, on le sait très bien. Et comme c'est eux qui font les lois et c'est eux qui veulent imposer les choses, automatiquement, d'un côté comme de l'autre, je suis sûr que 99,9% de ceux qui étudient la Torah ne regardent pas de haut ceux qui ne l'étudient pas. C'est évident que 99,9% de ceux qui n'étudient pas la Torah et qui font l'armée n'ont pas de haine ou quoi que ce soit vis-à-vis de ceux qui étudient la Torah. Mais le problème, c'est toujours le même. Malheureusement, depuis que le monde a été créé, ce ne sont pas les humains qui font le monde. C'est ceux qui sont au pouvoir, c'est l'établishment. Et l'établishment, d'un côté comme de l'autre, est toujours pourri. Havel, dit le Zohar, était hautain. Il a fait comprendre à Caïn que c'est un homme soukbet, et c'est pour ça que Caïn l'a tué. Le problème, c'est que les peuples, et pas seulement le nôtre, sont victimes du fait que le destin des hommes est entre les mains, dans tous les peuples, d'une poignée de malfaiteurs qui, eux, font la pluie et le beau temps. C'est tout. Oui, dernière question, et après on s'arrête.
Une question de Frédéric.
Ça fait longtemps que je voulais poser une question.
Olivier.
Alors, juste, moi je ne veux pas rentrer dans le débat politique, oui, mais je veux revenir justement au psaume. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il reparle justement de sa période de jeunesse.
À la fin.
Non, au début.
Oui.
On parle qu'il est berger.
Ah oui, bien sûr.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, cette période-là a été fondatrice pour lui.
C'est ce qu'il dit, Malvim.
Voilà. Il s'est occupé, en fait, des moutons. Et en fait, ce qui lui a permis, après, de s'occuper, de diriger des hommes.
Oui.
Ce que vous avez dit, en fait, à son corps défendant, il est sorti de ce domaine-là pour entrer dans le domaine de la royauté, de la politique, etc. Oui. Bon, et ben, finalement, c'est pareil ce qui s'est passé. C'est-à-dire que finalement, il avait besoin de sortir. C'était quand même fondateur, parce qu'il s'était occupé quand même de ses moutons.
Oui, mais c'est pas ce qu'il dit, il dit qu'il est sorti malgré lui.
Mais moi, c'est ce que je dis.
Tu peux faire un autre pérouche, ça me dérange pas.
Il avait une période de méditation avec Dieu, etc., ce qui lui a permis, après qu'il est devenu roi, de garder en fait cette relation avec Dieu, même quand il a dû écrire ses psaumes aux combattants, etc. Donc, le fait qu'il ait écrit ses psaumes à la
fin... Ce que tu rajoutes est 100% juste, mais c'est pas le pérouche du Malbim. C'est juste, mais... Ok, c'est juste.
Voilà. Qu'il revienne finalement à sa période fondatrice de jeunesse, c'est que c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'il pouvait pas être un grand roi sans qu'il ait eu cette formation spirituelle.
C'est ce à quoi je faisais... Maintenant, j'ai enfin compris ce que tu dis, une fois de plus, bien dit. C'est ce à quoi je faisais quand j'ai répondu à Nathan. Son agression, pas justifiée à mon égard. J'ai très bien compris, je respecte ce qu'il m'a dit. Mais il n'a pas compris. Quand j'ai dit que l'homme de Torah pourra faire un meilleur soldat, je n'ai pas parlé sur le plan ponctuel. Mais dans la mesure où il est attaché à une tradition éternelle d'Israël, il se bat pour quelque chose qui va durer.
C'est évident.
Mais c'est évident, tout le monde le sait, même eux ils le savent. Quand j'ai pas de valeur, quand mes valeurs c'est le monde qui m'entoure, quand mes valeurs sont américaines, françaises ou sont mishpachot agoyim, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Combien de temps ça va durer? Donc automatiquement c'est ça que je disais, que mieux vaut des combattants qui ont la Torah, mieux vaut des dirigeants combattants, parce qu'au moins on sait qu'ils se battent pour quelque chose qui va durer. Mais si demain on est un peuple sans Torah, on va se battre pour quoi? On va mourir pour qui? À quoi ça sert de mourir si demain on a plus de Torah, on a plus de Kashrout, on a plus de Shabbat? Et je me dis une chose comme ça, mais bien sûr. Mais pourquoi la plupart s'en vendent et qu'ils peuvent partir? Pourquoi mourir? Pourquoi? Mais vous vous rendez pas compte? Le vrai danger qu'on a dans ce pays, c'est que si on ne donne pas de valeur à nos enfants, qu'il leur donne la raison d'être ici et d'affronter des dangers, ils resteront pas.
Mais c'est incroyable.
Ils resteront pas.
Ils ne trouvent pas les comptes. Comme stupidité, mais c'est incroyable.
Mais on n'a que 60 ans.
Vous me mettez en démon, mais écoutez-moi, mon père est décédé il y a des ans. En 3 ans, c'est la première fois que je suis arrivé ici.
Nathan,
avant ça, j'avais des valeurs, j'étais à l'armée, je suis blessé de l'armée.
Pas vous,
mon frère,
Nathan,
mais
pas
tout
vous,
le monde.
Est-ce que c'est trop
qu'est-ce que vous parlez?
J'expliquais.
Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'aimerez pas les gens qui sont de l'Eshiva. Elam, Oskim, Beishuvo, Shel, Ola.
Ok, maintenant,
c'est de l'Eshiva.
Où est l'erreur? Je savais que ça allait exploser, mais je le fais
exprès. Mais c'est impossible.
C'est comme je sais que j'aurai le dernier.
Dis-moi, je prends des 90% de
mais je vais expliquer.
Ah oui, non, vous n'avez pas de valeur.
Nathan, Atkan, vous avez entendu. Je vais expliquer maintenant le drame de cette idéologie qui met notre peuple en danger.
C'est
de Nathan. C'est pourquoi. Parce que Nathan, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que notre nation n'a que 64 ans.
Non, elle a 3500 ans.
Non, sans Torah, je parle.
3500 ans.
Sans Torah.
Sans Torah, mais badaï. Quoi, il y a aujourd'hui sans Torah ici.
Je ne parle pas de ça. La nation, elle a 64 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les nations autour de nous qui étaient pendant longtemps très nationalistes, mais sans Torah? Qu'est-ce qu'elles sont tous devenues après? Qu'est-ce qui s'est passé dans tous les pays du monde? Ils ont disparu et les gens ne veulent plus aller à l'armée. Et s'il y a des dangers, qu'est-ce que font les gens? Ils s'en vont. Pourquoi? On ne juge pas une nation sur 60 ans. On juge une nation sur 200, 300, 400 ans. Et là, c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que dans 300 ans, si je ne transmets pas des valeurs juives à mon enfant, qui ne transmettront pas à son enfant. Pourquoi voulez-vous que dans 100 ans seulement, des jeunes de 18 ans risquent leur vie pour un pays qui est après tout comme la France ou les États-Unis, où là-bas il n'y a pas de danger, autant partir aux États-Unis? Puisque je ne leur explique pas pourquoi je suis juif et qu'est-ce que signifie d'être juif. Évidemment qu'aujourd'hui on trouve encore énormément de non-religieux du tout qui sont prêts à mourir pour le pays. Mais le pays n'a que 64 ans. Mon souci, moi, en tant que juif, c'est qu'est-ce que je vais devenir dans 200 ans? Dans 200 ans, est-ce que vous pensez qu'un seul jeune en France accepterait de vivre en France s'il vivait les dangers que nous vivons aujourd'hui? Je répète, est-ce qu'un seul jeune français accepterait de vivre en France si la France était soumise à des risques comme notre pays aujourd'hui?
Mais posez la question, si dans ces 200 ans, est-ce qu'il y a un seul Israélien qui vivra dans ce pays?
Oui, que ceux qui sont...
Eh bien non, que ceux qui sont Shomer Shabbat. Même s'il n'est pas Shomer Shabbat.
T'écoute 2 minutes. Derrière sa... son objection, il y a une chose très fondée.
Oui.
C'est quoi? Si vous voulez, c'est ce que explique le Rav Kook dans ses écrits, c'est qu'il y a deux valeurs qui sont à l'origine de la formation et de l'histoire en Dancy de toute nation. C'est de tout peuple, en fait. C'est l'idéal national et l'idéal spirituel.
Bravo.
Il explique ça. Et donc, c'est normal, et c'est pour ça que moi je comprends sa colère.
Mais évidemment que je la comprends.
Non,
sinon, j'aurais pas pris le risque de faire un truc pareil. Surtout avec lui.
On est redevenu, on est revenu sur notre terre, qu'il y a des valeurs nationales, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des valeurs nationales, un idéal national qui est redevenu très fort et qui se donne l'impression. Jusqu'à maintenant, qui peut se passer de l'idéal spirituel.
Mais.
Et donc.
Combien de temps ça va durer?
Non, mais d'accord, mais le fait est que. De toute manière.
Éternel, l'histoire prouve que c'est faux.
Non, mais de toute manière, il y a. Le Rav Kook, il dit que c'est même très positif, que ces valeurs nationales qui se croient indépendantes de l'idéal religieux. Parce que ça redonne le corps à la nation.
C'est tout le cours d'aujourd'hui, bravo!
Et donc, quelque part, c'est ce qu'il objecte. Maintenant.
Mais. Richard, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une situation de poudre aux yeux. Dans la mesure, comme dit le Rav Kook, qu'après des millénaires d'exil où nous avions perdu la dimension nationale, heureusement maintenant qu'elle se réveille, et le Rav Kook dit c'est normal qu'elle se réveille chez ceux qui ne sont pas religieux parce que les autres n'ont pas de manque, ils ont la Torah, donc ils n'ont pas besoin de ce réveil. Donc la seule chose qui pouvait ramener à l'identité juive ceux qui n'avaient pas la Torah, c'est justement la nation. Et en ce sens-là, il a parfaitement raison. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que nous avons une expérience historique autour de nous. Tous les peuples qui ont vécu sur la nation uniquement, Qu'est-ce qu'ils sont devenus après ? Ils ont disparu. Pourquoi ? L'histoire a prouvé qu'un peuple ne peut en aucun cas traverser l'histoire uniquement sur des valeurs nationales. Le drapeau, l'hymne, l'armée, les tanks, les défilés, etc. Ça n'existe pas. Tous les peuples les plus puissants de la planète ont tous disparu parce qu'il leur manquait une âme à cet esprit national, une âme. C'est pour ça que je dis que, évidemment, que Hachem veut précisément que ça soit David, l'étudiant en yeshiva, qui prenne les commandes de l'État. Pourquoi ? Parce que David, Meler Israël, Chai, Meler Israël, Chai, Bekayam. La royauté ne peut être éternelle que si entre les mains de ceux qui ont comme référence la Torah. Parce que les autres, ça peut marcher 10 ans, 20 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Mais le projet d'Israël, c'est le projet de l'éternité. Qui va assurer ce qui se passera dans 500 ans ? Aujourd'hui, après 3500 ans d'histoire, nous avons le droit de dire que ceux qui ont assuré l'existence de notre peuple jusqu'à aujourd'hui, c'était les hommes de Torah. Nous avons 3500 ans de preuves. 3500 ans de preuves.
Le monde de la Torah a peur que l'entrée des Haredim dans l'armée...
Comment ?
Le monde de la Torah a peur que l'entrée des Haredim dans l'armée, en fait, ne les fasse rentrer dans le monde de la société, dans la civilisation.
Mais c'est tout le cours d'aujourd'hui !
Mais c'est le contraire qui va arriver,
mais c'est tout le cours d'aujourd'hui !
C'est le contraire qui va arriver, ça ne va faire que renforcer le caractère religieux de l'État.
Mais c'est tout le cours d'aujourd'hui ! C'est exactement ce que Hachem a fait avec David ! C'est tout le cours d'aujourd'hui !
On a fait une étude il y a assez longtemps qu'on connaît sur la fameuse vision d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, il raconte exactement ça. C'est pour ça que ça me fait débat, qu'il y a ici y compris. C'est qu'à terme, de toute manière, il y aura, après la réossature de la nation physique, il y aura le retour Rouhani. Et donc, ce débat tel qu'il se pose aujourd'hui, il est âpre parce qu'il est dans une période de transition avec vraiment des élites qui subtilisent et qui ont leurs propres intérêts de part et d'autre. Aussi bien le monde religieux qui a des gros intérêts au niveau de ses maîtres et de ses chefs que le monde politique. Mais en fait, le phénomène objectif du retour de la nation sur sa terre et ça va être, comme le disait Ézéchiel, ça va être une osmose entre ces deux univers. Il n'y a pas de souci à se faire.
Pour lier avec le cours sur les Nilgulim, il y a une question de Frédéric qui dit c'est le mental qui se retrouve dos à dos actuellement.
C'est lié au cours de Gilgulim que pour l'instant, malheureusement, la réflexion est suprêmement juste, dans la mesure où pour l'instant, le face-à-face, il est que au niveau de la morale et de la religion, c'est pour ça qu'ils ne se supportent pas les uns les autres. Mais quand le face-à-face va être au niveau du cerveau, ça veut dire qu'ils vont être capables de se parler, de s'expliquer, et que le corps va expliquer à l'âme que tu ne peux pas exister sans moi, et que l'âme va expliquer au corps tu ne peux pas toi non plus exister sans l'âme. Qu'est-ce qu'ils vont se faire ? Ils disent, bon, alors on s'aime à la folie, viens, marions-nous.
Oui, mais il faut revenir à l'état d'origine. L'état d'origine de roi David qui était berger, etc.
C'est le Mashiach, c'est la Torah du Mashiach.
Mabiche, quand il dit Mabiche, la biche, c'est Israël.
Non, non.
Au niveau du Zohar, si.
Non, non, la Gemara dit qu'il l'appelait Michal Mabiche.
Le Zohar dit que la biche, c'est Israël.
Ok, mais je te parle comment David appelait sa femme, il appelait Mabiche.
Moi, je crois qu'il.